Je sais que beaucoup de questions peuvent être posées sur le FDLR. Mais entre nous, je crois que nous devrions nous fixer des idées après 20 ans. Moi, je suis Rwandais et je pense Rwandais, franchement. Ces histoires des Hutus, des Tutsis, des génocidaires, j'ai une certaine mesure. La mesure, ce que je l'ai dit dernièrement au tribunal français pour le cas de M. Simbi Kangwa, je ne crois pas qu'au Rwanda, il y ait des gens qui ont le monopole de la souffrance que d'autres ne peuvent pas en avoir. C'est quand même curieux. Ceux qui ont eu les leurs tués par les Hutus extrémistes, par les machettes, par les gourdins ou par les fusils, nous déplorons ça parce que, en ce compris les miens, ce que les gens oublient, et le racisme qui s'est installé à cause de ce génocide est extraordinaire. Même quand j'étais premier ministre, les gens me disaient mais oui, les tiens sont des Hutus, hein. Ils ont été tués par les Hutus. Mais ceci ne diminue pas en aucune manière ma souffrance. C'est quand même incroyable. Donc, le cas du FDLR, je ne peux pas, moi, à mon âge surtout, parce que je vois des images de ces enfants-là, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Et pour les croyants, évidemment, il n'y a pas d'église. Les gens vivent comme si c'était encore du temps où, même je pense qu'avant l'arrivée des Européens, là, pour civiliser, entre guillemets, les gens vivaient peut-être mieux. Alors aujourd'hui, ils vivent encore sous la menace de la MONUSCO. Demain, on viendra vous attaquer. On va dans les trous. Et on vous a encerclé. On va encore profondément dans des trous. Mais c'est quoi ces histoires-là? Il faut quand même que ces gens puissent vivre normalement. Et tous ne sont pas génocidaires. Que les génocidaires soient arrêtés par ceux-là même qui, au lieu d'aller dans les forêts congolaises, chassent les Hutus ici, là. Je parle de monsieur... c'est quoi ça? Gauthier et son épouse. La traque des Africains génocidaires. Mais qu'on trouve ces génocidaires aussi dans des forêts tropicales et les chasser là. Et parlant de ces histoires de Gauthier là et d'Afroz, permettez-moi de vous dire que c'est incompréhensible que ce génocide introduit aujourd'hui des sentiments d'exclusivité entre Tutsi et Hutu. Jusqu'au point où M. Jean-François Dépakié, je pense que c'est son nom peut-être, dans une assemblée au tribunal, ose dire que les Hutus violent les filles Tutsi pour mesurer... c'est quoi ça? Leur maturité. Incroyable. Moi, franchement, hein, je n'ai pas été éduqué dans ces cercles de Hutus de Tutsi, moi. Non, non, non. Moi, mon père avait aussi des Tutsis qui travaillaient pour lui et qui gardaient ses vaches. Aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas le dire. On va me cracher dans la figure pour me faire comprendre que je suis Hutu, que je dois me mettre à côté. Je voudrais que... je ne voudrais pas continuer à interpeller Madame Brockman. Je pense que les autres aussi s'intéressent aux problèmes africains. Vous pouvez lire tous les livres d'anthropologues, de sociologues, d'historiens et même les écrits des journalistes. Nulle part. Ce que M. Dupakier a dit, c'est scandaleux. Et je me souviens de ce monsieur-là, en 1994, il est venu avec... c'est quoi ça encore, le mari de ta phrase? Ah, Gauthier. Les deux sont venus dans mon bureau quand j'étais Premier ministre. Je les ai reçus courtoisement. Mais je ne savais pas ce qui était dans la tête. Aller mentir aujourd'hui, après 20 ans, que les Hutus sont... violent les enfants. Ils doivent violer les adolescentes des Tutsis pour prouver qu'ils sont matures. Incroyable. Quel racisme. Mais où est-ce que nous allons? Aujourd'hui, être Hutu, c'est devenu une charge terrible. Ce sont des sauvages. Ils violent. Ils tuent avec des machettes. Ce qu'ils tuent avec les Kalachnikov, là, et les roues usées, on n'en parle pas. Là, ils sont gentils, hein. Enfin. Donc, je ne sais pas... Oui.
Je voudrais apporter un petit complément oui. sur la question qui a été posée par monsieur...
Gérard de l'agence belga,
oui. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a... Je sens, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez insinuer, mais je sens une question qui s'oppose par la plupart de gens, surtout ici en Occident. Cette association avec les FDLR, avec les gens qui sont sous sanctions des Nations Unies, d'autres qui sont recherchés par des tribunaux. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a une vérité qu'on a tendance souvent à occulter. C'est l'existence des réfugiés, beaucoup de réfugiés dans ces forêts congolaises, des enfants, des femmes, des vieillards qui sont là, qui ont fui depuis 1994, qui ont été traqués, c'est des survivants du massacre qui a été décrit par le Mapping Report, comme le dit José Troyadier Mungu. Je voudrais quand même rappeler que ceux qui sont en train de monter actuellement les opérations de désarmement, des opérations de rapatriement ont déjà été montées plusieurs fois dans la région. Il y a eu le Kimia 1, il y a eu le Kimia 2, Kagame et son armée, qui est dit très performant, a eu l'autorisation d'entrer dans le territoire congolais pour traquer ces gens-là. Ça a duré des années. Ça n'a jamais résolu le problème. Ça fait des années que ça dure. Ce qu'ils envisagent de faire, hein, on entend beaucoup parler de la MONUSCO, on va les désarmer. On peut être sûr et certain que dans 2 ans, on parle encore des FDLR, parce que ça n'intéresse personne. J'ai l'impression que ça n'intéresse personne que le problème soit vraiment résolu, parce que les moyens de le résoudre, on les connaît. Kagame lui-même, je suis persuadé qu'il n'est pas intéressé par le fait que les FDLR quittent la région, parce que c'est ce qu'il utilise pour continuer à faire ce qu'il fait, soit disant qu'il a une menace, parce que cette menace n'existe plus, qu'est-ce qu'il va encore dire, hein, pour qu'on lui donne des armes, pour qu'on lui donne la protection dont il bénéficie actuellement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien qu'on comprenne qu'il y a ces réfugiés qui sont dans les forêts tropicales, équatoriales, et que ces réfugiés, eux, ils sont sans voix. Il n'y a que le FDLR qui fait qu'on pense à eux, en fait. Et il n'y a que le FDLR qui, quelque part, les représente. Alors, qui est, comme disait M. Troyadier Mungu, qui est des criminels, qui est des génocidaires, comme on dit, mais ça ne peut pas occulter le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont là tout simplement parce qu'ils ont peur de rentrer au Rwanda. Ils ont peur de rentrer au Rwanda parce que ceux qui sont rentrés auparavant, la majorité sont morts, d'autres sont réduits à l'esclavagisme, que ce soit vraiment l'esclavagisme, je ne dirais pas intellectuel. Ils doivent, comme disait le président, ils doivent demander pardon tous les matins pratiquement, alors que c'est des enfants qui sont nés, qui n'ont même pas connu ce génocide qui s'est passé. Ils n'ont pas droit à la parole. On peut les tuer quand on veut, il n'y a pas de poursuite, c'est ce qui se passe actuellement au Rwanda. En tout cas, la plupart de ceux qui sont rentrés rapatriés de force, il y en a beaucoup qui sont ici qui peuvent en témoigner. Mais c'était un problème qu'il faudra absolument à un certain moment résoudre, et on ne peut pas le résoudre, comme l'a dit le président tanzanien, sans impliquer ces FDLR qui sont utilisés par le régime rwandais principalement, qui profite beaucoup plus au régime rwandais qu'à quiconque d'autre. Donc c'est pour cela que nous, on a estimé que comme on devait s'attaquer au problème des réfugiés, et que c'est eux qui représentent les réfugiés, c'est eux qui vivent avec eux, et que c'est eux qui peuvent nous aider effectivement à expliquer les problèmes des réfugiés à la communauté internationale, on ne peut pas résoudre le problème sans être en contact avec eux. Nous, on est en Occident. Ceux qui sont au Rwanda, ils n'ont pas vraiment de contact avec eux parce que c'est un crime. Quand on parle avec les FDLR, c'est un condamné à mort au Rwanda. Donc c'est pour cela qu'à un certain moment, on s'est dit, il faut quand même avoir le courage de dire avec ces gens-là, on va parler politique. Parce qu'on ne s'est pas associé à eux pour faire la guerre au régime de Kagame. Comme m'a dit M. Troyadier Mungu, ils ont déposé les armes, ils se sont engagés sur un terrain politique et on est prêt à faire tout ce qu'on peut pour les aider à résoudre le problème du Rwanda, mais sur le terrain politique et à faire entendre les voix de ces gens-là qui n'ont personne pour parler pour eux. C'est pour cela que on n'a pas eu peur de dire, voilà, vous allez vous associer, vous allez vous associer aux gens qui sont sous sanctions, on va dire que vous êtes complices. Non, mais ce n'est pas de la complicité, c'est de la politique. C'est de la politique qu'on a décidé de faire.